Aux événements de la journée précédente succède une léthargie contagieuse. Ce n'est pas la maladie, ce n'est rien qu'un vague à l'âme, ou la mélancolie, ou la paranoïa, je ne suis pas un spécialiste, la peur du destin qui remplit le lit. D'abord, il se présente sous des traits riants, grands et glorieux, bien qu'il s'agisse d'autre chose, entre nous de toute autre chose, des femmes, d'une, en tout cas, mettons la mienne, qui ne m'embrasse pas, ne dort pas dans mon lit. En pensée, je suis promise au plus beau des futurs, celui pour lequel chacun naît. Écrivain célèbre, un lycée portera mon nom, ou professeur dans les plus fameuses universités, j'aurai affaire aux vivants. Metteur en scène, gloire nationale, mes phrases seront gravées au fronton des théâtres. Enfin, grand reporter, sillonnant la terre entière, mon Dieu, quel ennui, quelle fatigue, en quête d'informations, de billevesées aussi pour mener les peuples par le bout du nez. Mais je broie du noir, et les ruminations sombres, en vérité, me tiennent stupéfait, idiot, ébahi, immobile, me laissent pantois, les yeux seuls animés, qui suivent le vol des mouches, mon destin est à remettre à plus tard. Le soir tombe sans changer un iota, commence alors une descente de degré qui n'aura pas de fin, sinon la tombe. Rocher, je le crains désormais, m'appelle par la fenêtre pour me dire que la propriétaire m'a envoyé une lettre. En effet, je l'ai reçue à mon nom sans adresse. Malheureux, je n'aurais pas dû, regrets éternels. Car un avenir moins radieux que le précédent, quoique très respectable encore, se dessine, sans dulciner toutefois. Quant à devenir un génie, Bernique, pourquoi, comment l'expliquer, mystère, rien qu'un petit maître, c'est déjà pas si mal. Je retrouverai donc la colombe chérie de mes 5 ans, je continuerai ma vie sans encombre, flanquée d'une progéniture. Combien en aurais-je? Un garçon, une fille, pas plus, autrement ce serait trop con. Mais à chaque respiration nouvelle, mon curriculum vitae, que la nuit écrit, se modifie de pierre en pierre. Pas de renaissance comme prévu, pas d'amours enfantines, pas de mérite et de reconnaissance, je resterai comme je suis, médiocre, insatisfait, insignifiant, ne foutant rien que des mots, des images inertes, gisantes plates, sans vie, d'épuisantes pollutions nocturnes. Au moins, restons-en là, n'allons pas tout gâcher, gardons nos yeux pour la pleurer, ma peau, difficile à sauver, pour braver le froid d'un long hiver sentimental. Le cerveau encombré de toutes ces circonvolutions, c'est un penchant bien naturel, la lettre ouverte, je la lis avec tristesse à la lueur d'une bougie. On exige, c'est écrit noir sur blanc, un loyer, incompatible avec des revenus minables, pour ne pas dire la misère. Une expulsion se profile, on voit le tableau, la police, le maire, les valises, il n'y en a pas. À l'ordre du jour, l'occupation des lieux, le plus longtemps possible, la seule mesure vraiment raisonnable, quand on n'a nulle part où aller. Les mouches, n'y pensons pas, ne me seront d'aucun secours. Un grand désordre règne sur l'île, car les travaux vont commencer qui permettront peut-être de passer entre les gouttes. Tout petit, c'est ainsi qu'il convient de se faire, je n'y parviendrai point, au point qu'aujourd'hui encore, la chronique s'en émeut là-bas. Juste derrière la fenêtre, entr'ouverte mais bloquée par la poignée, un ensemble un peu flou, mal bâti, se dessine, qui retient mon attention. Un nez droit, naît entre deux yeux trop bleus pour être vrai, une bouche se brouille, et je la reconnais, qui se manifeste enfin, mieux encore vient me rendre visite, j'en ai si grand besoin, se réfugie dans son geste familier, le bout des doigts ramenant sur le front une mèche de cheveux roux. Suivent des têtes, d'autres mains, dans des poses de plus en plus farfelues, à croire que j'abuse de l'intimité toute relative d'un photomaton. Me voilà bien désenchanté. Maintenant un visage d'homme apparaît, espéré, reconstruit sans cesse, le visage de mouche dans l'attente d'un sourire qui tarde. Ce visage n'existe pas, je le sais pertinemment, mais il fait entendre, tout en s'animant, des mots de tous les jours, associés si librement qu'ils semblent emboîtés dans une langue imaginaire. Familier, mal connu pourtant, il s'inquiète ironiquement de ceux qui préfèrent les fantômes dont je ferai partie. Ses propos me calment et finissent. Par la fenêtre, les étoiles. En bas, un bruit d'eau qui goutte du robinet. Sur la rétine, patiemment, avec soin, s'imprime une figure, un homme à tête de loup. De loup, il faut voir ça de près, car dans ses yeux de loup la mort passe, le bruit de l'eau chaque seconde, la noirceur de la pièce n'y étant pas pour rien. Ce bruit comme une buée, et ces images comme des secondes, instables entre deux mondes, celui de la fantaisie et celui de l'angoisse, me conduisent de proche en proche à un rêve, l'espace d'un instant que j'oublierai au matin. Je croirais avoir trouvait dans l'étage du mur l'image du loup-garou, auquel plus personne ne croit mais qu'on craint, car le monstre sait égarer l'imagination en des régions qui font peur. Qu'il n'y ait pas d'animaux sur l'île, excepté le chien des voisins et quelques chats sauvages, jamais les mêmes, qui courent après les oiseaux, fait naître le soupçon en moi que ceux qui vivent ici refusent ses compagnons, chassent et tuent même les bêtes errantes à la recherche d'un abri. Sur le chemin, quelques escargots après les pluies et des lézards le long des murs. À un dénuement trop parfait, à une solitude excessive, l'animal offre un modèle rudimentaire, aux effets pervers et puissants, quelque chose comme la trouille tout à coup de se mettre à quatre pattes, de lécher le sol, de laper la poussière pour s'incliner, rien que s'incliner, s'obstiner aux frontières de l'humain, rejoindre dans l'oubli de soi ces êtres qui hennissent, aboient, miaulent, jappent, pépis, lapissent, feulent, barissent, mugissent, braient, bourdonnent, rugissent, sifflent, stridulent, chantent, grognent, bêlent, chevrotent, bruissent, roucoulent, mais ne parlent pas. Qui supporterait de s'éloigner à ce point de lui-même et des autres, sans broncher, sans alcool, sans extase? J'aimerais tant aller voir les mouches, mes amis, des voisins, leur raconter mes peines et mes joies, mais il est trop tard, cela a mal tourné, on n'y peut pas grand-chose, et même dans les rêves, je ne m'y risque plus. De grands pas sur une ombre qui s'allonge, qui me précède obstinément, épousant les surprises du chemin, avec pour horizon la maison jaune, le jardin son prunier consolidé, dedans le bureau, où vit, avant d'oublier, d'une main à plume appliquée. Je sais désormais pourquoi les mouches m'ont fait venir ici. Toute la rancœur du monde y passerait, que je ne serais pas assez vengé. Il a beau dire et faire, son beau discours ne me convoquera pas, d'autant plus qu'il parle d'une langue étrangère, on peut en juger à ses notes, qui sonnent terriblement au début butinants en buissons creux, fabuleusement songes, brasses cabrelablement, mentez et vos ponges et vos dents, cause d'ignibition pour effacer la vérité toute nue, qu'on ne peut pas dire, etc. Il n'y a rien à comprendre, d'ailleurs ce n'est pas un poète qui parle, mais le plus commun des voisins, impossible de le cacher, c'est d'ailleurs l'origine de sa disparition, voilà par empathie, sympathie, confusément les choses depuis le début. Poète, moi aussi, je note mes rêves tous les matins, et dans ces conditions, il est aisé de fasciner les foules attentives et muettes, parfaitement studieuses. Je bâille, m'ennuie ferme, fais du bruit avec un crayon, je trouble la paix de l'amphithéâtre. Mouche interrompt son discours pour me demander de sortir. Avec sa compagne assise dans le couloir, nous parlons du maître qui a surveillé de près les présents. Elle a répondu dans son devoir que le rêve paraît plus long qu'il n'est, mais rêve revient si souvent dans sa bouche que c'est d'un grand comique. Elle s'est trompée, aurait mieux fait de réviser, pourtant le correcteur sera indulgent avec elle. Sûr de moi, je réalise tout à coup que j'ai signé ma copie d'un autre nom que le mien. Dans l'amphithéâtre, mouche, une cigarette au bec, un verre d'eau à la main, accompagne de l'autre avec force gestes amples montant et descendant lentement, inexorablement, un exposé incompréhensible tant il est abscon. Les choses ne vont pas mieux, il me repère tout de suite, s'oppose violemment à ce que je reprenne ma copie, se fâche, bondit de l'estrade, me jette dehors, je m'élance, bille en tête basse, les yeux au ras du chemin, condamné à perpétuité à ne jamais rencontrer l'autre, comme mouche se propose de le démontrer, je m'en offusque, je m'éveille. Des fourmis ont colonisé le plan de travail, mais ce ne sont que des écrits dispersés sous la lumière de la lune. Un bruit de fond interrompt un rêve au matin, des bulldozers ont débarqué sur l'île, un plan d'aménagement de ce quartier, peut-on vraiment parler d'un quartier, est prévu depuis bien longtemps, qui s'emploie maintenant à faire le vide des bâtisses trop vétustes abandonnées. Les coups d'une masse contre les murs de plâtre, les pans entiers qui s'écroulent, le tonnerre des moteurs maintenant tout près achève de me réveiller. En filant à la va-vite une chemise et un pantalon, je me rends sur le terrain vague, à côté de la maison jaune, où j'assiste, désemparé, impuissant, à la démolition d'une manière d'entrepôt à deux étages qui aurait pu servir de dépendance. Les machines travaillent vite, derrière elles, d'autres engins déblaient les gravats, presque sous leurs bras gigantesques menaçants, quelques belles pierres de calcaire arrachées à la cécité des démolisseurs, utile à quoi je ne sais, mais je leur trouverai une destination. Une autre urgence me réclame. Dans un petit bâtiment, derrière chez les mouches, où ne mangeront plus les charpentiers de marine, un seul ancien décoré de volutes, de feuilles de lierre, dans les verts, les ocres, les gris. Relever ce sol est un office. armé d'un fer donc et d'un marteau, je m'échine à ne pas briser ces carreaux de ciment qui niaient depuis trop longtemps pour m'échapper aujourd'hui, qui sans moi étaient voués à la disparition. Sauver un patrimoine, même de banlieue, même populaire, d'autant plus s'il l'est, me semble alors que se nettoie la colle, me semble, en nettoyant la colle de mauvaise qualité, facile à détacher, un travail enfin à la mesure de mon ambition. Oublier les rêves éphémères, les écritures inutiles, épuisant vaines, les fantaisies délétères, le sol, rien que le sol, le terre-à-terre, du solide, du sérieux. Le travail, loin des regards, mais j'aimerais tant qu'on me voie, les mouches surtout qui jugeraient, c'est sûr, qu'il est grand de se coltiner au sol l'estomac creux, de contempler l'espace au ras de terre, de jouir d'un plan horizontal. Il ne s'agit pas d'humilité, mais de remettre les choses en place, les pieds et les mains par terre, c'est par cela que tout a commencé, un appui pour la marche qui accompagne la pensée, la mienne est seule, si cela signifie quelque chose de penser seule. Dans cette bâtisse, aux murs bouffés par le salpêtre, aux fenêtres absentes, aux jardins souillés de bâches plastiques, communiant à quatre pattes avec tous ceux de l'île, plus fier que si j'étais debout, orgueil d'une humanité supérieure, ravi de triompher des débâtisseurs, de les tourner en dérision, je me rachète une conduite en préservant ce que tous ici, je n'en doute pas un instant, voudraient voir dans leur salon, convoite en secret. Une brouette de fortune ramène les carreaux plus précieux qu'un dallage de marbre dans le jardin de la maison jaune, où ils s'entassent, s'empilent devant la porte de la cave, destinés à recouvrir le sol de la cuisine. Et quand l'argent sera en abondance, ils régaleront mieux qu'un pot-au-feu. Un capharnaüm, cette cave, où des objets insolites, affreusement usagés, s'accumulent dans tous les coins, le résultat de mois et de mois de récupération, aussi bien dans les maisons abandonnées de l'île qu'au milieu des dépôts sauvages sur les trottoirs des environs. En contemplant ce butin, certains jours de cafard ou d'ennui, riche de tant de choses à faire, je jubile. Une anthologie, en somme, de bricolage et de tours de main à venir, à publier un jour, qui viendra couronner ma carrière si les événements, qui risquent, je le pressens, de mal tourner, m'en laissent le temps. Il s'en faut de peu que je l'exhorte les passants et les badauds à la résistance, à conserver quelque chose de ces pavillons désuets, sinon sauver ces maisons ouvrières, ces châteaux de banlieue aux tours pitoyables, aux machicoulis rikiki, aux colombages qui miment sans complexe des entrelacs de branches, tout cet ensemble hétéroclite construit de bris et de brocs, c'est sa richesse, ce musée sauvage d'architecture vulgaire, délicieusement petite bourgeoise. Les toits s'effondrent dans un bruit de fin du monde, les poutres se brisent comme des crânes, les murs troués laissent dépasser les poutrelles de fer tordu, les conduites d'eau et de gaz éclatent comme des os ou des triques, les planchers s'écroulent défoncés à moitié, les paliers restent suspendus devant des murs garnis par endroits de papier peint, fresques hautes en couleurs de carrés magiques. Un grand corps, celui de l'île, coule, s'efface déjà des mémoires, et dans un coin, la terre retournée, une cave ramenée au grand jour, une vieille boîte de clous à tête, de vis ridées à réparer du désastre. Non, ce n'est pas la guerre, mouche ne me contredira pas, voici des ruines ou presque qui disparaissent définitivement, un mal-être qui croît m'envahit, rien de bien mémorable. Aussi m'oubliera-t-on, et ces feuillets qui contiennent tant de rêves finiront-ils dans un coin de hangar, au feu pour griller des saucisses, oubliées sous la pluie, peu importe. L'essentiel est que vive ce bureau, cette maison jaune, où je passe les plus belles années de ma jeunesse à bondir d'une joie folle de n'être pas à l'asile ou terré sous les bombes. Quand reverrai-je, hélas, des bouches, se dessiner les traits, s'éclairer le regard jamais indifférent, s'ouvrir la cuisine, le salon, la salle de bain, où je m'étais décrassé en arrivant sur l'île, ce n'était pas un luxe, la bibliothèque, la cabane où Courbet décrit sans doute en ce moment. Quand entendrai-je à nouveau de leurs mots le ton définitif ou moqueur, quand sentirai-je de l'herbe la fraîcheur? Tout est foutu, je n'ai plus qu'une vague idée de leur physionomie, pour le dire sans ménagement, à quoi ressemble-t-il? Je repousse l'envie furieuse de courir chez eux, l'espoir idiot, probablement, qu'un je ne sais quoi les incitera à se souvenir d'un pauvre type et de son infortune, à me rendre visite. Un sentiment d'échec, cependant, s'ajoute à la liste des jalons de mes états d'âme, et sous les étoiles, comme un somnambule, je marche jusqu'à la maison rose. J'ose en franchir le portail, en dépit de toutes mes bonnes résolutions, j'entre dans la cuisine, passe dans le salon vide. sur la table, un jeu commencé, indiquent qu'ils ne sont pas loin. Sans insister, un peu effarouché, après un coup d'œil par la fenêtre pour voir s'ils sont dans le jardin, je m'en vais, je m'éveille, je m'attache de siphonnier accompli. Lire au matin trois phrases sur une feuille préparée au chevet, écrite pendant trois phases d'éveil somnambulique. Trois phrases sans signification, oubliées au réveil. On n'y aurait pas cru, la multiplication des bouchées implique qu'il ne sait pas comment. Laisser se lever la sensation de pas minuscules sur un sol carrelé, voir tout à coup les ombres dans la pièce du haut, à mon bureau avec beaucoup de soin. C'est incroyable, mais ma façon de me déplacer obéit à d'autres lois que celles d'un marcheur ordinaire, celles précisément de la marche des pièces sur un jeu d'échecs, sur un échiquier. Je vais droit à une case qui représente un pavé du chemin, pas même un caillou, je tourne ensuite, et enjambant sans difficulté de case, je m'arrête dans le salon. Mouche et sa fille y jouent une partie d'échecs, bien que les pièces du jeu soient méconnaissables. Sur une table recouverte d'une toile cirée imprimée de motifs de lierre, glissent avec un bruit feutré des figurines de sexe féminin, ou bien plutôt des sexes féminins, qui à portée de main s'ouvrent pour figurer la reine, articulent pour annoncer le roi, vomissent pour jouer les pions, exhibent des clitoris géants pour construire les tours, et grimacent doublement afin de faire le fou. Cavalier phallus, balbutiant un air de cavalerie, je fais face au vagin, parmi d'autres phallus, de toute taille, de toute consistance, flasque dans un angle, triomphant au beau milieu de la place, ondulant pour agresser sauvagement, ne faut-il pas dire une folle plutôt qu'un fou, ou fourbe et mince à sortie d'une capote, selon la nature des pièces. Tout ce petit monde se presse, prend de tous côtés, je n'ose dire par tous les bouts, attaque, se replie en bon ordre, combat sans état d'arme. Mais personne chez les mouches, le salon est vide, les livres et tous les objets ont disparu, seulement un jeu d'échecs aux formes de coquillages. De la disposition des pièces sur l'échiquier d'ardoise, on peut déduire que la maison est habitée. Excessivement sentimentale, je regarde par la fenêtre s'ils sont occupés à jardiner, à boire un verre avec d'autres amis. Rangeant finalement les pièces en ordre, j'entends dire sans en deviner l'origine, quel idiot, la partie vient à peine de commencer. Je sors en titubant comme ivre, et avant de complètement m'éveiller, j'articule nettement à voix haute, un fou à cheval n'irait pas plus loin. Excessivement sentimental, je démontrerai un autre jour ou une autre nuit que les sentiments qui habitent ce rêve, comme beaucoup d'autres, gagnent à, mais cela va trop vite. Je passe sous silence beaucoup d'autres, n'insistons pas. Ainsi, je suis revenu chez eux, malgré ce qu'il m'a fait, ce que j'ai dit. N'est-ce qu'un rêve? Fort heureusement, ils étaient absents, mais faut-il vraiment s'en réjouir? Peut-être m'ont-ils surveillé de loin, ont-ils fui, pour ne pas avoir à expliquer, à pardonner trop de calomnies, trop de mensonges entre nous. Mon bonheur serait grand s'ils m'envoyaient un émissaire, un parlementaire, pour arrondir les angles. Mais personne ne vient jamais me voir, même si ma porte est ouverte. Ouverte, disons qu'elle me protège, et le soir je n'oublie jamais de la fermer, mais une visite ça me ferait du bien, je ne la refuserai pas. Car ma cheminée, ma cuisine ne cache aucun trésor, ni mon sac de patates dans un coin, ni mon litre d'huile dans l'autre, ni mon litre d'huile bon marché dans l'autre. Rocher fait un télébouteille sur le pas de sa porte, le jardin s'étend devant les fenêtres, le tilleul grandit sur la berge, et ses feuilles, ses fleurs, dans l'eau d'une casserole sur le poêle, il marche toute l'année pour faire la cuisine. Certains jours maussades distillent un concentré rose vif dont l'usage immodéré provoque des torpeurs. Le tilleul seul n'est pas en cause. Il faut compter aussi avec les soupes d'ortie pleines de pucerons, la petite ciguë que j'essaye, qui me tord les boyaux, les restes du marché glanés en hâte dans la crainte de représailles policières. Ne nous étendons pas sur les détails d'une misère, supportable du seul fait que j'écrive mes rêves chez moi, c'est presque une tautologie et le quotidien de mes activités tous les matins. Lorsqu'il arrive pourtant, j'espère un compagnon, enfin quelqu'un à qui parler. Je le trouve grand et sec, mal fagoté, les pieds nus dans ses chaussures, au retour du marché, j'ai sans doute oublié de tourner la clé au milieu du couloir, muet, entre deux embrasures. Un salut, je l'interroge, que faites-vous là? Et lui, d'une voix minuscule, je viens pour demeurer ici. interloqué ici, de sa bouche coule un mince filet de voix. « Je ne veux pas vous chasser, je me contenterai du premier étage, vous resterez au rez-de-chaussée, nous saurons sans nous gêner. D'où venez-vous ? Dans un murmure, de nulle part. Qui êtes-vous ? Presque sans voix, peu importe. Je m'appelle Richard. Comment ? Au seuil de l'audible. Richard, moi, terrible, trunitruant, hystérique, connais pas, et d'ailleurs c'est impossible, je ne peux pas vous héberger ni partager cette maison, j'y étais avant vous, depuis très longtemps. Enfin, mais, il n'y a pas de mais, je suis le premier occupant, trouvez-vous autre chose. » Il sort sans insister. Derrière la maison jaune, tout au bout du chemin, la tente qu'il a improvisée, de bâches plastiques récupérées sur le chantier de marine. En passant devant, je crois me voir, écrivant même, une requête peut-être, à la mairie assurément, le corps étendu sous les bâches, me demandant si je n'ai pas été trop dur. Mais enfin, j'étais un joyeux drôle dans les tout premiers temps, tout à fait digne d'être accueilli, abrité, les poches bourrées de références honnêtes, un moins que rien, pas du tout remarquable, un type sinistre, sans recommandation, mais un peu convenable, convenez-en, camp au milieu de l'île, en chantier, quel intérêt cela présente-t-il ? Mais je n'ai pas la conscience tranquille. Ici et là, une rumeur va croissante, laissant entendre que je reproduis ce que Mouche m'a fait, ce que tous m'ont fait, à laquelle je réponds que la situation n'est pas comparable, j'ai voulu seulement préserver un bureau. Là-bas, tout au bout du chemin, les charpentiers de marine, et à deux pas de chez moi les Mouches, me reprochent d'avoir refusé l'hospitalité d'avoir jeté quelqu'un à la rue. Pourtant, ils savent bien que j'ai des prérogatives sur cette maison, car d'emblée, il nous a distribué les rôles, lui en haut, moi en bas, non, cela était déraisonnable. Me laisser le premier étage, se réserver le rez-de-chaussée, cela aurait pu me tenter, mais toucher au bureau, à mes rêves, non, ce n'était pas vraiment réaliste. Et la cuisine ? Qui se serait occupé des courses ? Qui les aurait payées ? Qui l'aurait fait ? Trop de questions en suspens, il vaut bien mieux trancher dans le vif, l'abandonner à sa misère. Ensemble, on n'aurait rien de l'équivalent. Il ne m'en veut pas, car un jour il m'invite à venir manger la soupe, mais ce sont des œufs brouillés à la tomate. Comment donc s'est-il procuré ça ? Cela fait des mois, des années que je n'ai pas vu un œuf, des tomates. Sa casemate est nickel, elle sent presque bon. Il s'est fait une vie ici, sans moi et sans la maison jaune. Je m'en réjouis autant que je le peux, en dégustant ce plat de pauvre, il faut le dire, sans échanger un mot. Ça aurait été un compagnon silencieux, presque trop discret, ne regrettons rien. Pourquoi j'ai refusé de partager avec lui un logis ? Parce qu'il m'a fait jouer sciemment une scène inédite, le pauvre chassant le plus pauvre encore, s'évertuant à l'ignorer, superbe. Bien sûr, sa misère écarte loin de moi les curieux, mais je le soupçonne d'être revenu d'entre les morts pour séduire les vivants, évitant qu'on le sache, visant en se faisant clochard une solitude absolue, un incognito parfait, rebut de la société. En ces jours désolés, désolants, noirs, quand sévit le désir opportuniste de donner à l'île un air de gâteau dimanche, un air de bonbon blanc, je suis bien plus que ce locteux, plus que cette victime, admettons, le seul à déranger réellement les nantis, le seul à témoigner par son existence d'une opposition à la politique du maire, à mériter de le faire. Ce n'est pas dire simplement, comme tout le monde, que j'ai un toit, que je ne suis pas totalement démuni, faire valoir une autorité, un pouvoir sur la maison jaune, sur lui, que ses œufs, ses tomates partagées en sa compagnie, viennent bien évidemment démentir. Est-il mort de froid, ou seulement loin de l'île, ayant trouvé refuge ailleurs? Je me le demande quand je ne le vois plus. Sa présence et son départ restent une interrogation, un remords, il faut l'avouer, une menace. Maintenant, l'île offre aux promeneurs un aspect déprimant. À un bout, une cloche qui nous fait honte, abritée sous sa tente, à l'autre, une maison en cours de travaux, car la mairie n'en est pas restée à ses démolitions, mais entreprend aussi des rénovations arbitraires, et au milieu, la maison jaune à côté du tennis rouge qui disparaît sous les arbustes sauvages et sous les ronces. Moi aussi, emporté par la folie de rénover, d'aménager, je me décide pour une pièce supplémentaire dans la cave qu'il suffit de creuser. Montrons à ce vagabond imbécile qui se prélasse en dormant sous ses bâches, indifférent à son malheur, au mien, à mes voisins qui doutent de moi en ricanant, que le destin de l'île, le bien commun, ne me sont pas indifférents. Tandis que la pioche et la brouette s'activent, je récite inlassablement dans ma tête la morale édifiante de la fable, prenez la peine, c'est le fond qui manque le moi. Dit brouette à la suite, puis des fois une minute de repos, l'effort prolongé d'un labeur qui plonge sur la maison jaune, cherche profondément une vérité, des solutions à une expulsion prochaine annoncée. Une fuite en avant qui ne fera que précipiter ma chute, car en creusant le sol, les fondations apparaissent, mettent en danger la maison jaune. Dès cet hiver, le niveau du fleuve montera, la cave se remplira d'eau, une humidité meurtrière lézardera les murs, fissurera les planchers, déglinguera les vies, la toiture, fera crouler la bâtisse, et d'avance, ça m'excite au travail, à achever mon œuvre vengeresse. La propriétaire va me mettre à la porte, et sous couvert de bien faire, d'améliorer mon sort, celui des locataires qui viendront après moi, je travaille à la destruction de la maison jaune, je joue, gagne, perds sur tous les tableaux. Un cri du cœur qui ne sera pas entendu, personne ne semble s'émouvoir du tas de terre qui pousse dans le jardin, quand j'arrête de fatigue, du chant désespéré de la pioche contre les cailloux. Chaque soir je m'allonge, rompu de courbatures, sur le matelas sans même enlever mes habits, des pattes au gaz aux pieds, oubliant dans un profond sommeil, à peine entrecoupé de cauchemars ce chantier. Pendant ce temps, toute la nuit, mouche écrit. Sa table, installée dans un mouchoir à biais, domine le chemin, accrochée au croisillon de bois, une estampe reproduite un labyrinthe extrêmement complexe. Je m'y perds, allant en dérivant, glissant sur des chemins gravillonnés, brodés de hautes haies, de fusains d'aubépines, faisant halte à un refuge où une dame très belle, c'est elle, mouche, je l'identifie tout de suite, enlace à un beau jeune homme qui n'est pas moi. Cela suffit à m'éveiller, je garde encore sur les mains et surtout l'être l'empreinte du travail de la journée. Je suis trop fatigué pour jouir d'écrire ce rêve. Quand le jour sera clair, je veux ne jamais voir revenir le soleil. Sortir de l'île, du marasme. Les rives se regardant face à face, les pavillons se tournant le dos, presque symétriques, la maison jaune au centre, pas d'échappatoire, sinon la fuite en courant sur le pont. Hier, en m'engageant sur le chemin le long d'une berge, je me suis retrouvé à cheminer sur l'autre. Ai-je dormi entre les deux? Ai-je rêvé? Était-ce la distraction seulement? La vue du fleuve, des reflets dans l'eau qui m'accompagnaient, déchirant le paysage, m'a brisé l'âme, m'a courbé, assommé. Je n'en peux plus décrire mes rêves, je préférerais de loin m'oublier, ne plus tourner en rond. Hier encore, Rocher s'est précipité, inquisiteur, à ma rencontre, et sans même me dire bonjour, je peux vous écrire? Que veut-il dire? M'adresser une lettre, raconter ma vie, je ne suis donc qu'un guignol, une marionnette. Ma vie manipulée n'est qu'un roman qu'il écrit derrière ses rideaux depuis toujours. Mes rêves, mon corps, sont habités des esprits. Chaman, un vacillement, des vertiges, la faim 3 jours sans manger, une assaise risible, je cours sur le chemin, dans le bois de Vincent. Qu'est-ce que je fous là? Depuis quand a-t-elle disparu? Ai-je disparu, moi aussi? Courons chercher du renfort, des vivres, quelques sous pour me nourrir, heureux quand même de remplir mes poumons d'air frais, de faire profiter mon usage des rayons pâles du soleil, de parcourir à petite foulée plusieurs kilomètres au bord de l'évanouissement. Voici 30 centimes pour votre restauration. Voici la maison jaune, son perron, sa cuisine, le poêle que j'allume, sa chaleur. Qui me dira où nous allons? Une île en banlieue, cela est banal, ordinaire, et qu'on y habite, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Au marché pour y chercher des patates, de la grenaille, comme ils disent, je ne saurais le faire. Marché, entre qui et qui? Qui s'enfuit dans la haie en miaulant, redevient le locataire indésirable qui attend qu'on le chasse. Ça vient enfin de partout, ils accourent de tous les bouts de l'île, marchant en troupes de plus en plus nombreuses, affluents hirsutes, plus grimaçants les uns que les autres, et méchants, manquant de s'éclater les tibias, les fémurs, les radius, cubitus et divers, s'écrasant, jurant, pestant, hurlant, ce n'est qu'un début achevant ce voyou, qu'ils boivent la tasse une fois pour toutes, et la bande vociférant, armée de gourdins, d'avis d'expulsion, de livres jetés en l'air, au bas de l'escalier du pont, me repousse d'abord, puis m'éjecte. Il faudrait résister, mais c'est impossible, ils aboient si fort, mordent les mollets, griffent le visage, frottent et déchirent les oreilles, m'enfoncent les côtes, trop de coups, trop de cris, personne ne me réveillera de ce rêve, car il est plus vrai, plus terrifiant que tous les rêves, toutes les peurs longtemps filtrées par les murs de la maison jaune, qui m'a trop longtemps protégé de la vie du dehors, de l'air du grand large. La vague des combattants reflue, puis elle repart à l'assaut, ils sont vêtus de robes en guenilles, jamais je ne m'en sortirai jamais. De retour du marché, quand même, je la trouve qui attend, brune, boulotte, patiente devant la porte, et sans précaution, sans pitié. Monsieur, on vend la maison, vous n'avez pas de quoi l'acheter, il faut partir. Je pars déjà, je me prépare à partir, je prépare un déménagement. dans la brouette de fortune, transbahutant des cartons pleins de rêves, de dessins, d'écrits divers, jusqu'au hangar de l'autre côté de l'île où sont entreposés les canons. Entassés dans un coin, ils auraient pu finir tout de suite au rebut, au pilon, au feu, les flammes plus hautes que le pont, la fumée épaisse noircissant le tablier, mais le désir seulement d'un point de départ, d'un ancrage un moment pour ses rêves, même pour peu de temps seulement, chimérique, quelque part, en dépôt sur l'île, confiés à son hangar, à ses berges, qu'on en fasse bon usage. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 25 d'octobre, je m'en vais, je vais pouvoir cesser d'écrire mes rêves. À quel moment sommes-nous entrés en franchissant ce seuil dans un autre monde plus docile que le nôtre? Son serviteur, elle fait de moi ce qu'elle veut, m'emmène où va son désir, et tant qu'à faire de rêver, autant que ce soit amusant, touchant, dit-elle, qu'on ne perde pas la tête, mettons une comédie américaine, elle aime, moi pas. Des rayures bleues et blanches, des tricots rayés de marins, des têtes où personne ne les attendrait, des membres détachés de corps qui peu à peu se recomposent, des pas alertes, délurés mais gauches, dans un espace si étiré qu'on n'en voit pas la fin. Elle me prend par la main, et nous asseyons sur un banc, regardons, tout comme si nous dansions nous-mêmes sur les pavés, jetés au-dessus de blocs de béton gigantesques, chantions d'une voix sucrée des chansons obscènes. Elle m'assure en avoir écrit les paroles, et je la crois volontiers, il n'y a pas de quoi se vanter. Bientôt, elle m'avoue à l'oreille que les acteurs se sont permis tant de liberté qu'elle est gênée. Réveille-toi quelques instants de mon rêve, il faut que je reprenne les choses en main. Je sors, pour retrouver derrière les carreaux de la fenêtre, sur le ciel presque noir, les branches d'un orme, en 8 petits tableaux discontinus que je complète par la pensée. J'attends dans cette maison isolée la visite d'un ami, que j'ai quitté depuis longtemps, dont une lettre me dit qu'il a hâte qu'on se voie. En ce moment, il demeure au centre d'une île, en banlieue, où il a fait le plein d'histoires, mais autrefois il m'accueillait par un « raconte-moi tout » qui me laissait sans voix. Ce n'est pas un ami, aussi exigeant qu'on le croit, il y a toujours moyen de le satisfaire, pour autant qu'on ne lui marche pas trop sur les pieds. Il va bientôt être midi, j'attends toujours. En me penchant par la fenêtre, je scrute le chemin qui descend jusqu'au portail, un des battants de bois est entrouvert, il ne lui reste plus qu'à le pousser. Comme toujours, encore une fois il m'étonne, cela n'est pas facile à vivre, je n'ai pas entendu la porte grincer qu'il est là, et à son bras, elle, rayonnante, lumineuse, qu'il me présente courtoisement, que je connais bien sûr, puisque c'est de son rêve que je suis éveillé. Aussitôt elle m'embrasse, m'annonce que tout est arrangé, que je peux revenir et la suivre, qu'elle a congédié les frondeurs. Soumis à ses désirs, sans un mot, désespéré de cet imprévu, un coup d'œil par-dessus mon épaule, mon ami mouche, son sourire. Il vient. Voilà.